Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion, c'est le moment de vous retrouver pour votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité que je vous présente sans tarder. Capitaine Hervé Moreau, bonjour mon capitaine.
Bonjour Yannick, merci de me recevoir en vos studios.
Merci à vous, c'est bien la première fois qu'un officier de gendarmerie se retrouve devant le micro de notre émission. Alors je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez fait paraître un livre intitulé « Vérité d'un capitaine de gendarmerie, un officier d'active rompt le devoir de réserve hein, ». C'est le sous-titre de l'ouvrage. Alors c'est un livre assez volumineux, hein, plus de 500 pages, un livre témoignage dans lequel vous racontez le quotidien des interventions de la gendarmerie, nous y reviendrons bien sûr, mais également un livre corrosif au style incisif, mordant, sur l'état de notre pays. Et votre texte s'inscrit dans une actualité hautement brûlante, notamment, je dis bien notamment, l'actualité concernant les violences contre les forces de l'ordre, on l'a vu encore il y a quelques jours, mais aussi un livre en total écho avec la désormais fameuse tribune des généraux en retraite parue en avril dernier, et tout récemment, un deuxième texte publié le lundi 10 mai dernier sur le site de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles par des militaires d'active. Ce que vous êtes, vous, hein,
absolument
bien, vous êtes d'active.
Je suis toujours en service actif, oui.
Et pourtant soumis à un devoir de réserve. Alors
absolument.
Je précise tout de suite, je vais vous donner la parole, mon capitaine, je précise tout de suite que suite à votre publication, vous vous êtes vu infliger un blâme de la part de la ministre des Armées, Florence Parly. Alors, toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ?
Oui, 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 toutes les vérités sont bonnes à dire parce qu'il me semble que maintenant, notre pays, notre France est dans une situation à ce point compliquée, à ce point catastrophique qu'on doit en finir avec l'hypocrisie, avec la bien-pensance, avec la politiquement correcte, avec tout ce qui nous a amené vers le bas. On a droit à la vérité, on a droit à vouloir le changement, le progrès. On a même l'obligation de dire ce qui ne va pas. Tous ceux qui sont en charge avec les responsabilités, quelles qu'ils soient, moi je crois immensément au parler vrai. C'est grâce à cela qu'on va aller vers l'équilibre, vers une France meilleure pour nous-mêmes et nos enfants. C'est en énonçant ce qui ne va pas que l'on pourra le mieux trouver les solutions sans rien édulcorer, sans rien nier, dans une logique de toute de transparence pleine et entière.
Alors je précise que aujourd'hui nous vous proposons, je m'adresse à nos auditrices et auditeurs, donc c'est une première partie. Et une deuxième émission aura lieu avec vous qui sera diffusée le samedi 22 mai prochain.
Exactement.
Toujours sur l'antenne de Radion. Alors,
il y a beaucoup à
je
dire.
Vous présente un peu, mon capitaine.
Oui, merci Yannick.
Vous êtes né en 1969 en Nouvelle-Calédonie.
Oui.
Vous avez grandi à Nouméa. Vous êtes Saint-Cyrien, titulaire d'un master en gestion et d'un DESS en sécurité. Vous êtes aussi diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en relations internationales.
Oui.
Vous avez une carrière atypique parce que, dans un premier temps, vous avez servi 8 ans au sein des régiments de l'armée de terre, puis vous rejoignez la gendarmerie nationale après avoir réussi le concours de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Oui.
Durant presque 5 ans, de 2015 à 2019, vous avez été commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Beaune, en Côte d'Or, d'où vous nous venez d'ailleurs, et vous êtes, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes toujours, vous portez encore l'uniforme, vous n'êtes pas en retraite.
Non.
En dépit de votre jeune âge. La retraite, c'est pour quand, mon capitaine ?
La retraite, c'est pendant 13 jours.
Ah bon, d'accord. Et vous êtes actuellement officier de liaison gendarmerie sur une base de défense
de la région
que
parisienne.
Nous ne nommerons pas.
Très bien, je vous remercie.
Vous avez reçu des distinctions, notamment la médaille pour acte de courage et de dévouement. Alors, c'est une médaille à laquelle vous tenez énormément, mon capitaine.
Oui, c'est la médaille que reçoivent ceux qui ont été au plus près de l'action. Bon, cela m'est arrivé à un certain nombre d'occasions, bien entendu. Être militaire, c'est braver le danger, c'est prendre des risques pour ceux que nous avons à protéger. Et voilà, je le précise, une affaire parmi toutes celles que j'ai eu à traverser lorsque je commandais la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune. Voilà, c'est une affaire où nous avons eu affaire à un forcené, où j'ai eu à prendre des risques, où j'ai eu à exposer ma vie. Et puis, effectivement, ma hiérarchie a estimé que cet acte de bravoure méritait récompense et méritait l'attribution de cette décoration. Donc voilà, ça fait bien sûr, c'est la reconnaissance d'un devoir, c'est la reconnaissance d'un don de soi-même pour aller au bout de son engagement. Et donc bien sûr, tout le monde, tout homme, toute femme a besoin de reconnaissance. C'est quelque chose de nécessaire. Les décorations sont quelque chose de particulier au sein des forces armées. Napoléon l'Empereur disait, ce sont les rochers des militaires. Bon, oui, on y accorde quand même beaucoup d'importance parce que, comme je l'ai dit à un moment donné dans le livre, les décorations, j'en ai beaucoup. Elles signifient votre carrière, elles signifient les risques que vous avez pris, elles signifient votre engagement, elles signifient vos valeurs, vos vertus, et elles trouvent leur plein accomplissement dans le danger. Comme le disait un de mes camarades, il est assez facile d'obtenir des décorations, des médailles, il suffit de se trouver là où est le danger. Et je trouve effectivement la formule absolument excellente. Donc voilà, oui, c'est une décoration dont j'ai été extrêmement, que j'ai été extrêmement honoré de recevoir, parmi d'autres.
Certes, une belle carrière.
Oui.
Ça, c'est mon avis personnel, oui. Ayant lu l'intégralité
en
de votre
cas,
ouvrage que vous m'avez d'ailleurs remis.
Si ce n'est une belle carrière, au moins une carrière intéressante et passionnante.
Néanmoins, ce blâme de la ministre des Armées. Comment vous avez vécu cette sanction qui est une sanction disciplinaire ?
Oui, c'est une sanction disciplinaire, absolument. C'est le plus haut degré de sanction qui puisse être infligé à un officier de l'armée française. Et peu importe vos états de service, peu importe tout ce que vous avez pu faire pendant 30 années, voilà, la rupture du devoir de réserve induisait le fait que cette sanction du plus haut niveau me soit infligée. Donc, bien entendu, une forme de déshonneur. Une forme de mise au banc de la carrière des armes. Mais j'ai répondu à la ministre, Mme Parly, dans une lettre que je lui ai adressée et qui était communiquée sur les réseaux et dans laquelle essentiellement je lui disais que Mme Parly, non, je ne suis pas déshonoré. Moi, mon honneur, je le trouve dans les yeux, dans le cœur, dans le regard des victimes que je protège. Voilà où se trouve mon honneur, madame. Et cela, on ne me l'enlèvera pas et on ne me fera pas taire. Parce que ce que j'ai à dire est trop important, trop essentiel, parce que nos concitoyens souffrent depuis trop longtemps et de manière trop importante pour que l'on continue de se taire, pour que l'on continue d'être servile, pour que l'on ne cesse pas de vouloir la vérité. Moi, je considère que le devoir de vérité est plus important que le devoir de réserve. Et maintenant, les choses sont à ce point dramatiques dans bien des territoires de notre pays que l'on doit agir.
Il y a quelques jours, mardi 11 mai dernier, vous deviez passer... Et vous étiez l'invité du journal télévisé de France 2 à 20h.
Oui.
J'ai essayé de vous écouter, de vous voir sur ce plateau de France 2 avant que de vous accueillir ici dans les studios de Radio Nanitri. Et à la place, invité exceptionnel, nous avons eu le Premier ministre Jean Castex. Comment se fait-il ?
Eh bien,
que s'est-il passé ? Peut-on vous poser cette question légitimement ?
Entre le moment où l'enregistrement est fait au niveau au pied des locaux de cette chaîne publique et le moment où le sujet est censé être diffusé, annoncé par Anne-Sophie Lapix, effectivement, la programmation change. Alors, à quoi cette programmation est-elle due ? À quoi cette évolution, ce changement est-elle due ? Y a-t-il eu censure ? Y a-t-il eu pression au plus haut niveau pour que ce sujet soit écarté ? Je l'ignore. Bien entendu, on ne peut que supposer... voilà, peut-être que la présence de M. Castex, notre Premier ministre, justifie que la prééminence lui soit donnée, bien entendu, et je le comprends tout à fait, mais peut-être que cela répond-il à d'autres motivations, mais je ne sais pas. Et en général, quand je ne sais pas, je ne m'exprime pas.
Alors parlons de la gendarmerie. Vous écrivez « J'ai bien conscience que nous faisons un métier difficile et qui le devient toujours plus,
oui,
au regard de l'irrespect prégnant, prévalant dans notre société ». Au regard de sa violence, au regard de la remise en cause de toutes autorités, qu'elles soient parentales, éducatives ou institutionnelles. C'est pas l'enfer d'être gendarme aujourd'hui ?
Non, ce n'est pas l'enfer parce que nous sommes tous des gens passionnés. parce que, enfin, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est un métier extraordinaire, comme les celui de policier, comme peut l'être celui de pompier, tous ceux qui sont en charge du terrain, tous ceux qui ont à agir pour protéger, pour intervenir, pour secourir, vivent les choses avec un intérêt, une passion, une exaltation quelquefois, qui fait que on l'outrepasse tous les écœurements, toutes les difficultés et tous les risques. Mais ce sont des métiers exigeants. C'est quelquefois, ça peut vraiment s'apparenter à des sacerdoces. Parce que leur exercice est toujours plus difficile, plus compliqué. Parce que la hiérarchie est ce qu'elle est. Elle a tendance à ne rien vous pardonner en cas d'erreur. Et des erreurs, nous en faisons tous sur le terrain. Je le raconte également dans le livre. Hein, je raconte les moments où les situations ont été dramatiques, où j'ai pu mal décider, mal commander sur le terrain. Ça, c'est la quintessence de l'engagement d'un officier. C'est un métier difficile, mais merveilleux. Et moi, je le recommande quelquefois. Enfin, je reçois même beaucoup de lettres de jeunes gens qui m'écrivent et qui me disent « Capitaine, j'ai lu votre livre, je comprends mieux ce qu'est la gendarmerie nationale, l'exercice d'un commandement tel que le vôtre au quotidien, je comprends mieux la gendarmerie nationale, je n'imaginais pas que ce soit ceci ou cela, mais maintenant je sais, je vous en remercie. » Et je leur réponds toujours, enfin j'essaie de leur répondre parce qu'on m'adresse beaucoup de correspondances à la suite de l'apparition de ce livre et de sa diffusion, mais je leur dis « Engagez-vous. Engagez-vous parce que c'est un métier merveilleux, c'est un métier exigeant, c'est un métier difficile, c'est un métier qui vous fera courir des risques. » Et quelquefois, des mères m'écrivent et me disent leur crainte, leur anxiété à voir leur enfant, fille ou garçon, s'engager dans cette profession. Et alors, j'essaie de les rassurer. Oui, le danger existe. Oui, on peut perdre sa vie, bien sûr. Mais c'est un engagement merveilleux. Et c'est cela, voilà, le métier des armes, pour moi, c'est la quintessence de l'engagement. Oui, vraiment.
Nous allons marquer une première pause en musique et en chanson, mon capitaine, si vous le permettez.
Oui,
je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radion et ce samedi 15 mai, dans votre émission, nous recevons donc le capitaine Hervé Moreau, auteur d'un livre témoignage intitulé « Vérité d'un capitaine de gendarmerie » et sous-titré « Un officier d'active rompt le devoir de réserve ». Nous nous retrouvons bien évidemment dans une poignée de minutes avec notre invité, qui d'ailleurs est désormais habitué des micros et des plateaux de télé, parce que vous êtes passé sur LCI, sur CNews.
Oui, sur Sud Radio, sur Europe 1, sur voilà, un certain nombre de plateaux de télévision, absolument.
Alors tout de suite, nous écoutons un titre qui va vous plaire, mon capitaine,
oui.
Et vous le mentionnez dans votre livre, c'est aussi un petit clin d'œil à Laetitia, votre femme, que vous avez épousée il y a quelques semaines maintenant.
Le 1er
c'est
mai.
C'est « Avant toi » de Calogero.
Oh, excellent, merci.
Laetitia, sans qui aussi ce livre n'aurait sans doute pas vu le jour. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité, le capitaine Hervé Moreau.
C'est des jours entiers ployés sous un fardeau. Jamais léger, toujours courbé le dos. Avant toi, laisse-moi te dire que c'est traîner des pieds, c'est exister à peine. Désespérer que quelque chose advienne. Avant toi, laisse-moi te dire. Avant toi, c'était quoi? Sinon un préambule, un long chemin de croix. Puis tout bascule. Avant toi, c'était rien, aussi peu que mon corps. Avant toi, ce souvenir. Se démener, chanter dans le désert. Pour qui c'était tous ces vers, tous ces airs. Avant toi, laisse-moi te dire. Avant toi, c'était quoi? Une répétition de mots, de gestes là. Puis l'explosion. Que mes bras n'avaient jamais étreint, que du vide et du froid. Avant toi, c'était quoi? Sinon un préambule, un long chemin de croix. Puis tout bascule. Avant toi,
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est un officier droit et vertueux, au franc-parler et à la flamboyance parfois dérangeante, qui est aujourd'hui devant le micro de Radion. C'est le capitaine Hervé Moreau, auteur de Vérité d'un capitaine de gendarmerie, ouvrage sous-titré Un officier d'active rompt le devoir de réserve. Je rappelle que notre auteur a reçu un blâme de la ministre des Armées. Et d'ailleurs, mon capitaine, je voudrais vous soumettre, puisque nous sommes dans une émission littéraire, oui, et d'autant plus que je vais citer un prix Nobel de littérature, de surcroît français, puisqu'il s'agit de Romain Rolland, qu'on connaît bien dans Lyon, puisqu'il est mort à Vézelay, même s'il est né à Clamecy, dans la Nièvre. Et je pensais à vous, d'ailleurs, en tombant un peu par hasard sur cette citation de Romain Rolland. « Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. » Vous la connaissiez ?
Oui, oui, je la connais. Effectivement, c'est une
Et
citation.
Vous avez osé ce livre ?
Oui, j'ai osé. Et je crois que c'est ça l'existence. Enfin, moi, je le précise dans mon livre, au regard de tout ce que j'ai pu connaître, traverser en termes de joie, de souffrance. Je dis, voilà, tout ce que j'ai vécu pendant ces 4 années de commandement de cette compagnie. Je fais vraiment rentrer le lecteur dans le quotidien de mes fonctions professionnelles, dans mon intimité également, quelquefois. Je raconte ce qu'il en est de mes souffrances, de mes peines, de mes joies. Et vraiment, le leitmotiv, c'est oser, c'est avancer, c'est progresser. Un commandement est une chose extraordinaire. Parce que moi, je me suis toujours attaché, depuis 30 ans que je sers sous les drapeaux au sein de l'armée française, je me suis toujours attaché à élever les hommes. Ça rejoint un peu le rôle social de l'officier, tel que le décrivait le maréchal Lyautey, parrain du lycée militaire d'Aix-en-Provence, de la corniche dans laquelle j'ai préparé l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le concours. C'est oser, c'est vivre intensément, c'est élever les hommes, c'est les amener vers le meilleur, vers le plus haut qu'il est possible. Alors bien sûr, vous heurtez quelquefois à des résistances, parce que il faut passer outre quelquefois sa paresse, ses hésitations, sa timidité, vaincre ses lâchetés lorsqu'on n'a pas cette propension au courage et au fait d'oser, mais c'est extrêmement noble comme responsabilité. Alors bien sûr, on s'oppose à toutes les résistances possibles et au final et au résultat, quand vous arrivez par votre exemplarité, par votre recherche de la vertu, par l'accomplissement du devoir dans ce qu'il y a de plus sacré, à vaincre ses résistances, c'est une satisfaction énorme. Et tout le long de ma carrière, je le dis dans le livre, on aime le capitaine Moreau ou on le déteste, je ne laisse jamais personne indifférent, jamais. Et regarde des témoignages que j'ai toujours reçus avec ce livre, c'était extraordinaire parce que beaucoup d'hommes qui ont servi sous mes ordres, et quelquefois il y a 10, 15, 20 ans, 25 ans, sont revenus vers moi et m'ont dit à quel point ils ne m'avaient pas oublié. Et je leur ai objecté que moi non plus, je ne les avais pas oubliés. Je n'oublie rien, et que ce soit les moments difficiles ou les joies que l'on peut avoir. Et c'est toujours une progression, c'est toujours une amélioration, c'est toujours une recherche de l'excellence. Il n'y a rien tant que je déteste que l'à peu près, l'approximation, le manque d'exigence, parce que nous devons le meilleur aux victimes. C'est ce que je disais souvent à mes hommes et aux femmes qui ont servi sous mes ordres. On doit le meilleur aux victimes, on se doit de les protéger, on se doit de faire de notre mieux. Et la gendarmerie de terrain qui a servi sous mes ordres est une gendarmerie d'excellence. Moi, je leur rends hommage dans ce livre. J'ai écrit ce livre pour les victimes, j'ai écrit ce livre pour mes gendarmes, et je leur rends hommage. Je dis à quel point ils sont dévoués, méritants, bienveillants vis-à-vis de ceux qu'ils protègent. Enfin, ce sont des gens absolument remarquables. Pour l'essentiel d'entre eux, bien entendu, nous avons aussi d'autres qui sont de notre nature.
Alors, oui. Parlons-en des autres. Oui. Les galonnés étoilés pour lesquels vous n'avez pas forcément une forte sympathie. Vous écrivez « Les officiers de gendarmerie sont le plus souvent mièvres, falots, dans la norme, ils ne dépassent pas. » Et vous écrivez « Si les officiers de gendarmerie avaient plus de personnalité et de courage, la gendarmerie serait sans nul doute mieux commandée et la France serait mieux servie. » Et alors là, parce que le livre est un témoignage, mais c'est aussi un livre critique sur différents aspects de la société, y compris la gendarmerie, oui, tous ces galonnés étoilés, tous les carriéristes partisans d'un immobilisme prudent et dépassé, tous les vieux envieux dénués de charisme et de personnalité. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère.
Non, je suis, ceci dit, d'une parfaite lucidité. Et c'est exactement cela. Et quand mes camarades officiers ou sous-officiers d'active, de réserve ou en retraite m'écrivent, ils me disent que l'ouvrage est extraordinaire parce que criant de vérité, parce que c'est exactement cela. Alors, moi, je suis d'une parfaite lucidité. Je dis les choses, c'est le parler vrai là encore. Moi, je regrette que dans le corps des officiers, on ne trouve pas que le courage. Alors, les généraux de gendarmerie, pour l'essentiel d'entre eux, sont des Saint-Cyriens. J'en suis un. Donc nous avons connu la même école de formation, nous avons connu le même apprentissage, les mêmes formations au combat. Nous avons cultivé les mêmes vertus de service, de don de soi. Moi, je suis toujours surpris que l'on sacrifie ses vertus, que l'on sacrifie ses idéaux sur l'autel du carriérisme et de l'arrivisme. Voilà, ce sont beaucoup d'officiers, je le regrette. Certains sont remarquables, mais d'autres sont beaucoup plus dans la norme, c'est-à-dire en ce sens qu'ils sont dans l'obéissance servile, ils sont dans la flatterie, dans l'obséquiosité. Ils ne contredisent jamais leur hiérarchie ou si peu. Voilà, tout est fait pour progresser dans la carrière. Et ce faisant, on peut ambitionner toujours de faire la carrière la plus belle possible, mais il ne faut pas se renier. Il ne faut pas renier ses idéaux, il ne faut pas renier ce que l'on est, il ne faut pas renier ce devoir d'exemplarité. Aller sur le terrain, c'est prendre des risques naturellement. Certains ne le font pas ou le font le moins possible parce qu'ainsi ils ne s'exposent pas. Moi, je ne conçois de commandement que par l'exemplarité. Il faut montrer aux hommes, il faut être parmi les hommes, au milieu d'eux, avec eux.
Oui, c'est comme ça. Vous leur reprochez d'être enfermés dans leur bureau.
Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des bureaucrates. Ouais. Ils sortent leur bureau le moins possible, ils s'exposent le moins possible. Donc voilà.
Mais au moins, il faut des bureaucrates.
Il en faut le moins possible, à mon sens. Ce dont on a besoin, c'est d'hommes d'action, d'hommes qui agissent, qui sont sur le terrain, là où l'action se passe, là où les victimes ont besoin de notre intervention. Il y a trop de bureaucrates dans ce pays. Il y a une complexité administrative qui est absolument affolante et dont on crève. Il faut absolument changer cela. Alors, on le dit depuis des décennies, rien ne change. Et moi, c'est ce qui me met quelquefois en colère. Parce que les Français, le peuple attend changement. Mais pour comprendre le peuple, à mon avis, je dis l'ouvrage, notamment avec la séquence des Gilets jaunes, qui a été extrêmement durable. Oui. Pour comprendre le peuple, il faut le regarder dans les yeux, le peuple de France. Il faut l'aimer, il faut le connaître, il faut le côtoyer, il faut l'écouter, il faut surtout l'écouter, le peuple de France. Et la gendarmerie nationale a ceci d'extraordinaire, qu'on est confronté à tous les milieux sociaux, à toutes les CSP, catégories socio-professionnelles, on voit le pire et le meilleur du genre humain. C'est ce qui fait la crédibilité d'un officier de terrain, d'un sous-officier de terrain, d'un militaire de terrain. On est côtoyé au réel et dans cet ouvrage, beaucoup me disent « mais il est d'une telle lucidité ». Il est d'une telle vérité. Vérité et lucidité s'assimilent pour dire ce qu'il en est. Et cet ouvrage porte également énormément d'espoir. Il apporte des solutions, il est force de proposition. Parce que moi, je crois que nous porterons toujours l'espoir. Certains estiment que du fait de l'évanouissement de l'autorité, des formes, toutes les formes d'irrespect auxquelles on est côtoyé, c'est terminé, on n'en sortira plus. Non, moi je crois qu'on pourra toujours s'en sortir à force de volonté, à force de courage, à force d'effort. Encore faut-il les accomplir, les exercer et les porter.
Et encore faut-il qu'il y ait une ambition collective.
Oui, mais cette ambition collective, elle a besoin de leaders pour s'exercer. Elle a besoin de chefs. Et là, on en revient à l'exemplarité du chef. On en revient à celui qui porte le message. Par l'homme qu'il est, par son charisme, par sa personnalité, par ses idéaux, par ses idées, par cette exemplarité qui fait que l'on adhère à ce qu'il est, qui fait que l'on comprend qu'il ne trompe pas. Ça me paraît essentiel. Que ce soit dans les grandes entreprises, petites ou au sein des forces armées, c'est ce qui a toujours motivé les hommes.
Alors pour vous, quand on est payé par le contribuable, qu'on relève de la fonction publique, il y a des variantes, hein, bien sûr. Pour vous, on a le devoir de faire correctement son travail. Et il y a quelque chose qui vous hérisse particulièrement, c'est la paresse, la fainéantise. Vous parlez, les prénoms ou les noms sont changés, ou il n'y a peut-être même pas de nom, vous parlez de cette femme, adjudant-chef.
Adjudante
de la brigade de Bligny-sur-Ouche.
Oui.
Que vous qualifiez un peu, je vais me permettre ce terme trivial, de feignasse.
Oui, c'est exactement cela. Paresseuse, feignasse, le terme que vous voulez, Yannick. Mais oui, à un moment donné, certains ont la propension. Il s'agissait d'une petite brigade à quatre, donc déjà c'est absolument un non-sens et elle a été dissoute, me semble-t-il, à l'été 2017. Une brigade à quatre est un non-sens parce qu'elle ouvrait deux demi-journées par semaine, mais voilà, ça c'est le maillage de la gendarmerie nationale. La gendarmerie est très maillée parce que ça permet effectivement d'intervenir. Dans des délais raccourcis. Les élongations nous posent toujours une difficulté lorsqu'on a effectivement à assumer une mission sur le terrain. Mais oui, c'est un sous-officier qui avait oublié quelle était l'essence de ses devoirs. Donc moi, je lui ai rappelé à un certain nombre de reprises. Et, et ça me paraissait absolument essentiel. Comme je lis dans l'ouvrage, je ne doute pas qu'elle m'ait beaucoup critiqué, parce que lorsque vous faites savoir ces quatre vérités à quelqu'un, alors en toute lucidité, avec le courage nécessaire, en règle générale, il ne vous est pas très reconnaissant et il a tendance à vous critiquer, à vous calomnier par voie de conséquence. Alors bon, je le regrette, mais c'est de la nature humaine, c'est l'orgueil, c'est la certitude de sa valeur alors qu'elle n'est pas forcément avérée. Mais ça, c'est le devoir du chef. C'est le devoir du chef de dire les choses, y compris quand elles dérangent.
Oui. Mon capitaine, il y a un épisode, je dirais savoureux tout de même. C'est le moment où votre commandant, que vous avez connu lorsque vous êtes arrivé à Beaune, part et est remplacé par une commandante.
Oui, une commandante, oui.
Et là, ça a été un peu difficile. Pour quelle raison ?
Alors,
c'est conflictuel.
Ouais, c'est conflictuel.
Vous n'avez pas le même profil.
Non, je sers pendant 3 ans aux ordres du sous-escadron Didier Drault, je me permets de le citer, qui est un absolument admirable, qui est un ancien sous-officier, qui est passé par tous les grades de sous-officier. C'est un homme d'une humanité extraordinaire. J'ai beaucoup appris avec lui. Et nous sommes, l'un et l'autre, fait une confiance totale pendant les 3 années où j'ai servi sous les ordres. Et comme je le dis dans le livre, n'ayez pas l'épaisseur d'un papier de cigarette entre nous. Et c'est nécessaire, parce que les hommes ne doivent jamais sentir qu'il y ait des difficultés entre le commandant d'une compagnie et le commandant en second, entre le commandant et son capitaine. Et effectivement, alors cette femme prend le commandement de l'unité, c'est la nouvelle chef, nous allons devoir passer une année ensemble, et moi j'en suis très heureux, parce que je suis un féministe convaincu, les femmes ont toujours aidé mon combat, la protection des femmes, et je suis très heureux pour la première fois de ma carrière d'être aux ordres d'une femme. Et puis malheureusement, les choses se passent assez mal, assez vite, parce qu'il lui est difficile d'avoir le capitaine Moreau sous ses ordres, parce que il a 15-20 ans de plus qu'elle, parce qu'elle n'a pas de décoration, pas de médaille, pas de fait d'armes, parce que c'est une universitaire, parce que je suis Saint-Cyrien, donc je crois un complexe d'infériorité, je crois qu'il n'avait pas lieu d'être pourtant, je crois beaucoup d'orgueil et la volonté de commander seul, de ne pas utiliser celui qui est son commandant en second, son adjoint, la volonté de s'imposer, d'essayer de s'imposer en l'écartant. Alors c'est un procédé assez commun, assez répandu, et c'est extrêmement dommage, parce que le rôle d'un chef est d'utiliser toutes les capacités qui sont autour de lui, et surtout par l'exemplarité, ce que Didier avait merveilleusement su faire. À un moment donné, je reprends une des phrases de l'empereur dans la lettre que j'écris à Didier lorsque nous nous rencontrons pour la première fois. Moi, je suis né pour commander. Je suis né pour commander, comme l'empereur le disait. Voilà, il y a 2 types d'hommes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Et pour savoir bien commander, il faut savoir bien obéir. Non, l'empereur dit, rien n'est plus faux. Et je suis d'accord avec lui. Donc voilà, Didier sait utiliser tout mon potentiel, toutes mes capacités, alors que sa nouvelle commandante ne le fait pas, ne le sait pas. Et ça devient effectivement assez vite conflictuel.
Il a rompu le devoir de réserve en écrivant le livre dont il est question aujourd'hui dans votre émission littéraire sur Radion. C'est le capitaine Hervé Moreau qui est notre invité pour évoquer le quotidien des gendarmes, crimes, agressions, violences familiales, trafic de stupéfiants, pillage, par exemple des parcelles, oui, à Meursault, en Côte d'Or, mais aussi un livre pour dévoiler le laxisme de la justice. On va en parler, selon vous, hein, attention. Hein,
c'est avéré.
Voir la faillite du système judiciaire français à tous les étages, l'immobilisme de certains hommes politiques, voir leur trahison. Je rappelle que le livre a pour titre « Vérité d'un capitaine de gendarmerie » et il a pour sous-titre « Un officier d'active rompt le devoir de réserve ». Alors bien sûr, certains des ouvrages sont disponibles dans de nombreux points de vente en Bourgogne, par exemple. Bourgogne, Franche-Comté, Alsace.
Oui, Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Picardie et puis
région parisienne. Alors, si on habite dans le sud-ouest, comment faire pour se procurer votre livre?
Eh bien, j'ai démarché des grandes surfaces la semaine dernière par téléphone en faisant du phoning. Et donc, il est maintenant disponible à Carcassonne, à Perpignan, à l'Escure d'Abilgeois, près d'Avignon. Mais c'est vrai que c'est une démarche très artisanale, très lente, parce que je n'ai pas de diffuseur national. Et j'en profite, si vous me permettez, Yannick, pour passer un appel. Si un des diffuseurs nationaux, distributeurs, est tenté de distribuer ce livre dans une dimension nationale, moi, j'en serais extrêmement heureux. C'est une auto-édition. Lorsqu'il est sorti il y a 6 mois maintenant, Je l'avais proposé à de nombreuses maisons d'édition. Je rentrais dans leur ligne éditoriale, me semble-t-il, mais toutes l'avaient refusé. Alors, je ne sais pas pour quelle motivation, par peur peut-être, parce qu'effectivement, certains l'ont qualifié de bombe au regard de ce qu'il contient, au regard de ce qu'il dit, de ce qu'il relate, de ce qu'il dénonce et des solutions qu'il apporte. Mais aucune n'a voulu l'éditer. Donc moi, mon épouse et moi, nous en avons pris le risque. Nous y croyons extrêmement fortement. Je croyais en cet ouvrage, même si c'était bien sûr ma première œuvre. Les rares lecteurs qui l'avaient lu me disaient que voilà, il leur avait paru certains extraordinaires et merci à eux pour leurs commentaires. Et donc nous sommes lancés de manière en toute ignorance de cette dimension, de manière quelque peu téméraire, parce que la première édition était de 3000 exemplaires.
Oui, combien d'exemplaires vendus en cette mi-mai 2021 ?
12 000. 12 000 exemplaires, ce qui n'avait jamais été fait. C'est le record de France du livre auto-édité. Jamais un livre auto-édité, je crois qu'il en parait 200 par jour, n'avait atteint de tels chiffres.
Alors, on peut le commander via votre site.
Via mon site internet, librairieducapitaine.com, absolument. Alors, malheureusement, aux 22 € de l'ouvrage s'ajoutent les 7,90 € de frais d'expédition. Voilà, nous, on en a déjà diffusé un peu plus de 6 000 sur notre site et 6 000 ont été distribué via les 80, 90, 100 points de vente qui nous relaient en magasin physique. Et moi, ce que me disaient mes lecteurs, c'est que tout le monde devrait lire ce livre. Ce livre devrait être lu de tous. Donc moi, je n'ai qu'un espoir, c'est que les acheteurs Leclerc, Carrefour, Casino, Nationaux me contactent et veuillent bien diffuser cet ouvrage dans le plus d'endroits possible, dans toutes les librairies de France. Moi, j'en serais extrêmement heureux parce que moi, j'ai écrit ce livre pour qu'il soit lu le plus possible,
bien sûr. Oui.
C'est la vocation de cet ouvrage et c'est la motivation de tout auteur.
À suivre, donc, dans les mois, peut-être semaines à venir, on marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve avec notre invité, le capitaine Hervé Maury.
Je ne suis qu'une imbécile allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano. Dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais, dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Il se fait le porte-parole d'une immense majorité silencieuse, indignée, outrée, scandalisée par l'impunité, par le laxisme, par les souffrances. C'est le capitaine Hervé Moreau qui est notre invité en cette fin de matinée sur Radion. Je rappelle que suite à la parution de son livre, dont je rappelle le titre, « Vérité », au pluriel, d'un capitaine de gendarmerie, avec ce sous-titre « Un officier d'active rompt le devoir de réserve », bien je rappelle que notre invité a été sanctionné puisqu'il a reçu un blâme de la ministre des Armées, comme le souligne désormais maintenant le bandeau qui entoure votre livre.
C'est mon prix littéraire.
On a parlé de la gendarmerie. Vous dites aussi que tous les fonctionnaires devraient passer quelques années dans le privé.
Ouais.
Bon, c'est une réflexion. On avance un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le corps préfectoral, les généraux, certains généraux de gendarmerie font carrière, ne pensent qu'à eux, immobilisme, etc., etc. Vous dites qu'il en va de même pour les gens du corps professoral.
Préfectoral.
Que vous considérez, d'ailleurs, vous parlez d'eux comme des grands stressés qui ont peur de tout.
Oui, c'est vrai. Alors, pas tous, heureusement. J'ai connu deux sous-préfètes avant celui que j'évoque dans l'ouvrage, qui sont des femmes absolument remarquables, d'un professionnalisme avéré, abouti. Et lorsque vous avez la chance de servir, puisque c'est mon autorité administrative, vous avez trois niveaux de subordination pour un commandant de compagnie. Vous avez votre autorité, votre hiérarchie, bien sûr, gendarmerie. Vous avez l'autorité judiciaire, incarnée par le procureur de la République, qui dirige la police judiciaire. Et puis, vous avez l'autorité administrative en charge de l'ordre public sur l'arrondissement dans lequel vous servez et qui est le sous-préfet ou la sous-préfète d'arrondissement. Donc j'en ai côtoyé des remarquables et puis bien entendu j'ai eu affaire forcément à des orgueilleux, c'est vraiment une redondance absolue, quel que soit l'endroit, l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez, vous tombez toujours sur ce type d'interlocuteurs, des gens imbus de leur petite personne qui n'écoutent pas ou si peu, qui ont la certitude d'être toujours dans le vrai, c'est le propre de l'orgueil, et qui font beaucoup de mal. Donc oui, je raconte un peu les relations que j'ai pu avoir avec ce type d'individu dont je me pose la question de l'utilité. Alors lorsque vous avez affaire à une femme d'un professionnalisme avéré et abouti, comme je le disais, vous posez moins cette question. Mais lorsque vous tombez sur un orgueilleux dont vous vous demandez quelles sont ses missions et ses motivations, qu'est-ce qui fait qu'il touche 4 ou 5 000 euros par mois et plus, voilà, l'interrogation revient quand même très très vite. Et voilà, c'est un milieu que j'ai eu à côtoyer pas mal et je raconte aussi dans l'ouvrage ce qu'il peut en être. Je révèle au lecteur l'autre côté du miroir.
Oui. Alors, il y a 235 sous-préfectures en France. Vous écrivez, les sous-préfectures ne servent quasiment plus à rien. Et alors, vous écrivez, attention, ça balance, j'ai envie de dire, balance. Le sous-préfet, il dispose de ses appartements privés. Il bénéficie du soutien d'une gouvernante, d'un chauffeur. Beaucoup d'argent public dépensé en pure perte.
Oui, mais la liste est tellement longue, mais il faudra bien l'abréger à un moment ou à un autre. Non, effectivement, c'est un fric fou claqué. Pour rien, moi j'ai eu le sentiment, chaque fois que j'ai assisté à une commission de sécurité à la sous-préfecture, et j'en ai assisté à beaucoup, que le rôle d'une sous-préfecture est d'expliquer aux usagers comment réussir à se sortir de la complexité administrative, à croire qu'ils arrivent à complexifier les choses pour les professionnels, pour les particuliers, de telle manière à ce qu'ils justifient leur emploi par leur capacité à leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour essayer de s'en sortir. Enfin, sous bien des aspects, et je suis un fonctionnaire depuis 30 années, je trouve que l'administration n'existe que pour servir ceux qui ont besoin d'elle. Voilà ce que c'est qu'une administration, quels que soient les ministères, quelles que soient les responsabilités du fonctionnaire, il n'existe que pour ceux et celles qui sont censés servir. Qu'ils n'oublient jamais, effectivement, qu'ils arrivent à vivre, qu'il s'agisse d'un capitaine de gendarmerie, d'une magistrate, d'un sous-préfet, qu'ils n'arrivent à vivre, que leur salaire, leur pension, leur traitement ne leur sont versés que pour servir. Moi, c'est ça dont on parle. Et lorsque vous côtoyez certains, oui, effectivement, vous avez tendance qu'ils ont une propension à vérifier l'adage « je ne sers pas et je me sers ». Donc moi, ça m'a toujours profondément heurté. Et vous vous posez la question de la pertinence et de l'existence de certaines structures comme celle-ci qui sont totalement dépassées. L'empereur, il y a deux siècles, les a créés ces sous-préfectures et ne devaient pas être distantes de plus d'une journée de cheval l'une de l'autre. Bon, aujourd'hui, effectivement, on peut gagner l'une et l'autre de manière beaucoup plus rapide et pourtant elles continuent d'exister. Et moi, je pense qu'on devrait purement et simplement toutes les supprimer. Elles n'ont plus de sens aujourd'hui, elles coûtent un fric fou. Bon, mais là encore, il y a tant de dimensions dans lesquelles on devrait intervenir.
Cerise sur la gabegie, comme vous l'écrivez.
Cerise sur la gabegie,
à un moment
oui.
dans votre livre. Mon capitaine, vous oui. balancez les traitements de certaines personnes. Quel est votre solde?
C'est une bonne question. Au niveau de la solde que j'ai reçue,
ah, je me permets, puisque
oui,
bah, toutes les
permettez-vous.
Vérités sont bonnes à dire,
oui.
même si elles fâchent.
En toute transparence, je pense qu'effectivement, alors l'argent a toujours été une dimension taboue dans notre pays. C'est très regrettable parce que, voilà, moi je suis là aussi, je le dis dans le livre, quand je côtoie des entrepreneurs qui réussissent, moi je suis très très heureux de leur réussite. Leur argent, ils ne l'ont pas volé. Ils ont pris des risques, ils se sont donné beaucoup de mal, ils emploient, c'est eux qui créent la richesse dans notre pays. Moi, ils ont droit à toutes mes admirations, ils payent leurs impôts, leurs taxes, leurs cotisations. Bon, ces gens-là, je les admire parce que ce sont eux qui font la France, c'est pas la fonction publique. Et ces gens-là devraient avoir, voilà, à tous les égards, la fonction publique devrait, quelle que soit sa dimension, les servir, leur faciliter la vie. Et moi, j'ai l'impression qu'on leur met des boulets aux pieds, quoi.
Alors,
donc, quand ils roulent en Porsche, je suis très heureux pour eux. Et donc, pour répondre à votre question,
on va pas dire en quoi vous roulez. Sinon.
Non, mais je précise également, je précise dans le livre.
Plaisanterie privée. Alors, quel est votre traitement, mon capitaine?
Au mois d'avril, j'ai gagné 3746 euros net de mémoire, après prélèvement à la source. 3746 euros net. Et je stream être très bien payé. Très, très bien payé. Alors, après, au sein de la fonction publique, on est, je crois, très bien payé. Alors, de manière plus ou moins variable en fonction de vos responsabilités, votre grade, votre situation, bien sûr, dans la hiérarchie et dans l'échelle. Mais bien payer un fonctionnaire permet d'éviter une chose, permet d'éviter la corruption. Ça, c'est absolument fondamental.
Mais est-ce qu'il y en a en France?
Non, il n'y en a pas en France. Ou il y en a si peu, très très peu. Moi, je raconte cette anecdote. Après, malheureusement, les attentats du Bataclan, on a monté beaucoup d'opérations de contrôle de zone, de vérification de contrôle aux sorties d'autoroute. À un moment donné, effectivement, je vois ce van arriver avec les vitres fumées, teintées. Je suis avec tous mes hommes, donc pistolet mitrailleur déployé. La situation était grave. Et donc, ça ne plaisantait pas du tout. Et donc, je participe à cette opération, comme je l'ai toujours fait, étant le plus possible sur le terrain. J'ordonne au conducteur de baisser de sa vitre. Je vérifie ses papiers, il me précise qu'il transporte des clients asiatiques. Je vois la vitre, donc j'exige que la vitre du van se baisse. Je la vois descendre tout lentement, je vois des petits yeux ridés, une peau ridée, et je vois la main tendre le billet de 50 euros tremblante. Et là, je me dis que certaines polices asiatiques n'ont pas les mêmes pratiques que la police française ou la gendarmerie française. Donc voilà, je lui ai expliqué que cela n'avait pas lieu d'être en France.
Alors, la transition est assez bien trouvée. On va parler un petit peu de délinquance routière.
Oui.
Parce qu'on va parler criminalité et délinquance, alors on peut donner des chiffres. Mais parlons délinquance routière. D'abord, alors, étonnamment, vous n'êtes pas favorable à la limitation des 80 km/h. Vous semblez dire que c'est une sottise. Et vous êtes même favorable à 150 km/h sur les autoroutes françaises.
Oui, vraiment. Vraiment. Parce qu'on le voit arriver dans nos campagnes, en zone rurale. Lorsqu'effectivement, M. Édouard Philippe, Premier ministre à l'époque, pose le 80 sur route, enfin, c'est une aberration. C'est une aberration. On ne peut pas se passer de nos véhicules dans les zones campagnardes, dans les zones rurales. Et les axes sont vraiment d'un très bon niveau de sécurité. À un moment donné, assez. 3000 morts sur les routes et autoroutes de France quand il y a 20 millions de véhicules qui circulent quotidiennement. Voilà, c'est un niveau en deçà duquel on ne pourra jamais descendre. Et à un moment donné, vous vous dites, vous voulez aseptiser la société, vous voulez tout réglementer, vous voulez faire le bonheur des gens contre eux-mêmes quelquefois, tout régenter. Et c'est contre-productif. Et par ailleurs, nous avons tellement de zones de non-droit où s'exerce la violence la plus intolérable. Et ça, je ne le supporte plus. Et je pense que les Français également ne le supportent plus. Il faut rendre de la liberté aux Français. Quelque chose de très, très important. Si bien que moi, je suis extrêmement respectueux des 50 ans en agglomération. Là, c'est absolument fondamental et essentiel. J'aime rouler à 90 sur route.
Sauf le jour, hein,
Oui, effectivement. Effectivement, je le raconte.
Je
le raconte dans
l'ouvrage. Vous êtes contrôlé à 127 km. Heure au lieu de 90.
Oui, exactement.
Et ça se passe comment, là?
Et c'était une deux fois deux voies, d'une visibilité parfaite. Personne ne s'y trouvait. Il y avait une bagnole tous les kilomètres. Et effectivement, je me fais la réflexion, tiens, s'ils organisent un contrôle routier, ce serait étonnant. Et effectivement, ils ont organisé un, donc jumelles, je suis arrêté.
Vous êtes en civil, là?
Ah, je suis en civil, dans mon cabriolet. Et puis, effectivement, l'adjudant de gendarmerie en charge du contrôle, voilà, il y avait 3-4 bagnoles avant moi, le spot était bon. Et puis des visages, et puis je ne sais pas comment ça a pu se passer. Enfin, il voit également qui est mon assureur, et ça lui donnait quelques indications sur mon état de militaire. Et effectivement, effectivement, il fait preuve de mansuétude. Et il me connaissait, c'est ça qui était extraordinaire. Et donc, dans ces cas-là, ben, effectivement, vous êtes prêt au retrait de points, vous êtes prêt à payer l'amende parce qu'il est maître et souverain dans le contrôle qu'il exécute. Et puis voilà, très, très sympathiquement et obligeamment, il m'a permis de reprendre le volant et de poursuivre, voilà, sans amende, sans retrait de points. Et je l'en remercie. Et je me suis tenu dans une dimension très prudente à l'issue, que j'ai vite oublié naturellement.
Mais si, bravo à vous d'avoir l'honnêteté,
oui,
d'avoir raconté cette anecdote.
Oui, parce qu'on
parce
est...
que vous auriez pu,
oui,
non, je l'enlever.
Oui, oui,
et
non,
je trouve
non,
que c'est très,
non,
très honnête
dans,
de votre part.
Oui, dans l'ouvrage, il y a tout, tout. Il y a mes failles, il y a mes fautes, il y a mes souffrances, il y a mes erreurs, il y a aussi mes faits de gloire. Il y a tout. Moi, je crois qu'on est comptable de ce devoir de vérité au lecteur. Il ne s'agit pas de s'énorgueillir de quelque chose qui n'existe pas, il s'agit de s'énorgueillir de la vérité et de la réalité, en toute lucidité. Et moi, j'ai une très, très grande qualité, je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai au moins celle-là. Je sais reconnaître mes torts. Et je crois que c'est vraiment une vertu très appréciable. Et je le dis. Et pour les 150 sur autoroute, moi je crois que effectivement, j'y suis revenu souvent. Le réseau routier, enfin moi quand je suis à 130 sur une autoroute, j'ai l'impression de me traîner telle la limace de base ou l'escargot. Enfin, c'est insupportable. Oui. C'est insupportable.
Alors
donc,
là, nous il faut que nous accélérions un
oui.
petit peu parce que le temps passe très, très vite, mon capitaine.
Accélérons.
On va marquer une dernière pause musicale. Je rappelle, c'est le capitaine Hervé Moreau qui nous accompagne pour Vérité. D'un capitaine de gendarmerie avec ce sous-titre, un officier d'active rompt le devoir de réserve. Vous l'avez entendu, en tout cas, il aborde la langue de bois, l'hypocrisie, ouais. l'imposture et le politiquement correct. Absolument. Nous revenons dans quelques minutes, toujours sur Radion à bord de Wagon Livre.
Merci Yannick.
Avant, la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est le capitaine Hervé Moreau, officier de gendarmerie, qui est aujourd'hui notre invité. Son livre « Vérité d'un capitaine de gendarmerie » n'est certainement pas consensuel, encore moins politiquement correct, mais c'est le regard d'un homme d'action expérimenté qui n'a pas hésité à enfreindre son devoir de réserve pour nous livrer ses impressions, ses critiques de la situation de notre pays et proposer des solutions, notamment pour un tour de vis qui passe, en tout cas, par le courage, une volonté forte et vraisemblablement une autre politique. Il ne cache pas d'ailleurs ses propres ambitions politiques. Mais mon capitaine, au cœur de votre livre, oui, ce que vous dénoncez de manière récurrente, oui, c'est le laxisme, alors je reprends vos termes, hein, le laxisme éhonté oui, de la justice française.
Oui.
Ah
oui.
Alors, en quelques mots, et on en reparle samedi prochain dans notre deuxième partie d'émission sur Radion.
C'est absolument essentiel parce que c'est la pierre angulaire, comme je l'ai dit, de tous nos maux, de tous les maux de ce pays. Ça cultive l'impunité des malfrats, de tous ceux qui nous font du mal. Dans ce livre, je raconte un certain nombre d'affaires pénales, bien entendu. J'ai dû faire des choix drastiques, draconiens, sur les crimes, sur les délits, sur les agressions vécues, sur les souffrances vécues par les victimes. Tant que vous n'êtes pas une victime vous-même, vous pouvez prendre les choses avec distance, mais le nombre des victimes augmente sans cesse, tous les jours, et elles sont confrontées à ce moment-là à la machine judiciaire. Nous maîtrisons toute la chaîne pénale jusqu'au jugement. Et les jugements des magistrats nous écœurent, c'est cela dont on parle. On a le sentiment de travailler pour rien, parce qu'on se donne un mal de chien pour y arriver, pour interpeller les auteurs, pour réunir les preuves. Ils ne sont quasiment jamais condamnés à de la prison ferme. Il y a 500 000, 600 000 jugements en France, la moitié conduisent à des peines de prison. Vous avez à peine une vingtaine de milliers, 1 sur 15, qui sont à se retrouver incarcérés pour quelques mois. C'est de ça dont on parle. Donc 1 sur 15, donc pour quand vous souffrez dans votre chair, quand vous avez été agressé, quand vous êtes fait péter les dents, pour prendre ce terme, et ça arrive fréquemment, vous voyez que celui qui vous a fait du mal ne sera pas incarcéré un seul jour. Mais c'est absolument terrible, terrible. Et il y a tant d'autres exemples de souffrance, et ça cultive un sentiment d'injustice extrêmement profond, et ça induit cette impunité dont ils se prévalent, et ça induit toutes les récidives dont nous souffrons. On évolue dans une société de désordre, de violence toujours plus, et c'est alimenté par ce laxisme insupportable de ces juges qui sont indépendants, qui sont intouchables, qui ne se remettent jamais en question, qui sont certains de leur excellence.
Et qui rendent la justice au nom du peuple français.
Ils rendent la justice au nom d'eux-mêmes, surtout. Ça fait longtemps qu'ils ne la rendent plus au nom du peuple français.
Mon capitaine, nous, si vous le voulez bien, nous récidiverons,
oui,
la semaine prochaine, toujours, oui, à 11h. Donc je vous donne rendez-vous samedi 22 mai prochain à 11h, toujours sur Radion, avec notre invité, le capitaine Hervé Moreau. Je rappelle le titre de son ouvrage, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, un officier d'active rompt le devoir de réserve. Ça, c'est le sous-titre du livre. Un livre extrêmement riche, un livre témoignage, un livre charge, un livre plaidoyer. On en reparle plus en détail la semaine prochaine. Merci, mon capitaine. Rendez-vous samedi prochain, 22 mai à 11h sur Radion. Quant à
merci
vous, auditrices et auditeurs, merci de nous avoir suivis. Et je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. Au revoir.